VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Mali, le Premier ministre malien Soumeilou Boubey Maïga est aujourd'hui à Kidal, bastion de l'ex-rébellion Touareg dans le nord du pays. Une première depuis près de 4 ans. Une visite hautement symbolique. Le chef du gouvernement malien doit également se rendre à Gao et Tombouctou. Que pensent les habitants de Gao de ce déplacement? Des éléments de réponse avec notre correspondant sur place, Boubacar Touré.
La ville de Gao change de décor à l'occasion de l'arrivée du Premier ministre Soumeilou Boubey Maïga, l'enfant de la cité des Askia. C'est une opportunité pour les populations de Gao d'échanger directement avec le chef du gouvernement par rapport aux grandes préoccupations, nous ont confié les personnes interrogées.
C'est un événement grandiose que nous attendons depuis longtemps. Les agents de l'État ne peuvent pas circuler librement avec leurs véhicules. Souvent, ils se déplacent en moto et nous pensons qu'avec sa venue, ça serait une confiance pour les populations et d'avoir confiance à l'administration.
On est en train de sensibiliser dans tous les quartiers pour que les gens sortent massivement pour lui réserver un accueil digne de son rang. Personnellement, ça me donne beaucoup d'espoir. On est avec lui, on le soutient, on prie Dieu le Tout-Puissant pour qu'il l'accompagne dans cette mission pour que le Mali puisse se stabiliser.
Mais avant l'étape de Gao, le Premier ministre Soumeilou Boubey Maïga se rend d'abord à Kidal pour être plus proche des populations et pour mieux comprendre leurs attentes. Par rapport à sa visite dans la cité des Ifuras, les avis restent partagés.
Il ne faut pas qu'il y ait le même bain de sang qui s'est passé avec Moussa Amara. Il veut le faire dans le sens que le gouvernement puisse être à Kidal et que toute la population de Kidal accepte à ce que l'État soit à Kidal. Donc c'est là qu'il aura du pain sur la planche.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, nouvelle suspension du procès du putsch manqué de septembre 2015, cette fois jusqu'au 26 mars, pour permettre au tribunal notamment de statuer sur une demande de récusation des magistrats. De Ouagadougou, le compte-rendu de notre correspondant sur place, Lamine Traoré.
L'audience d'hier a duré un peu plus de 2 heures. Ouverte à 8h30, elle a été suspendue à 10h40 afin de permettre au juge de délibérer sur les observations de la défense, notamment la régularité même du tribunal militaire. Car sur la question, les avocats des prévenus sont restés intransigeants. Selon eux, le président du tribunal devrait d'abord statuer sur une demande de récusation introduite mercredi pour contester l'indépendance des juges. Pour le parquet, il n'y a aucune irrégularité. L'audience a été suspendue à 10h40 et reprend lundi. Pour l'heure, personne ne sait quand les débats de fond vont véritablement commencer. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En RDC, des casques bleus ont découvert jeudi 8 corps dans un village de la province d'Ituri dans le nord-est du pays, région en proie à des violences dues au conflit entre les éleveurs Emma et les agriculteurs hindous depuis décembre 2017. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi Guy Karema, un porte-parole de la MONUSCO, la mission de l'ONU, à Bounia, le chef-lieu provincial. Les corps étaient dans le territoire de Djougou, principal secteur affecté par les troubles. Selon Pilo Molindro, chef de la localité de Baïma Nord, il s'agit de victimes des dernières attaques perpétrées dans la région les 12 et 13 mars, attaques qui ont fait plus de 30 morts. Ce haut responsable local a ajouté que 7 rescapés ayant passé 9 jours cachés dans la brousse ont été retrouvés. Depuis décembre 2017, plus de 120 personnes ont été tuées suite à la reprise des violences entre les éleveurs Emma et les agriculteurs hindous. Entre 1999 et 2003, des dizaines de milliers de personnes sont mortes en Ituri dans un conflit communautaire entre ces deux groupes jusqu'à l'intervention de la force européenne Artemis. Au Cameroun, 3 personnalités, dont un ex-ministre, ont été écrouées à Yaoundé pour malversation financière présumée. Des mesures prises dans le cadre de l'opération Épervier anticorruption. John Lyndon.
3 anciens barons du régime sont placés en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. Jean-William Solo pour sa gestion de la Camwater, la société publique de distribution d'eau qu'il avait dirigée de 2012 à 2016. Bruno Bokoloibe, l'ancien recteur de l'Université de Douala, est soupçonné de malversation financière. En 2014, une enquête officielle l'avait déclaré débiteur de 2,4 milliards de francs CFA. Louis-Max Owandja, ancien directeur d'une école professionnelle qui dépendait de l'Université de Douala, est lui aussi écroué dans la même affaire. Depuis le lancement de l'opération Épervier en 2006, beaucoup d'anciens patrons et ex-ministres sont tombés au nom de la lutte contre la corruption. Un ex-premier ministre, Inoni Ephrem, purge 20 ans de prison pour détournement de plus de 1,68 milliard de francs CFA. Marafa Amidou Yaya, puissant ex-ministre de l'Intérieur, est lui aussi condamné à 20 ans de prison pour détournement des deniers publics. Souvent cité comme un successeur potentiel de Paul Biya, il dit être victime des règlements de comptes politiques.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Maurice, le vice-président mauricien Paramasimo Pillay Viapuri occupe depuis ce vendredi et de manière transitoire les fonctions de président de la République après la démission de l'ex-chef de l'État, Amina Gourib Fakim, mise en cause dans un scandale financier. Le gouvernement pourra soit confirmer M. Viapuri dans ses nouvelles attributions, soit nommer quelqu'un d'autre avec l'aval du Parlement. Seule femme chef d'État en Afrique, Mme Gourib Fakim a renoncé à la présidence le 17 mars en évoquant l'intérêt national à la suite de révélations sur des achats personnels réglés à l'aide d'une carte bancaire fournie par l'ONG Planet Earth Institute. Les attentats sanglants continuent en Somalie. Au moins 14 personnes y ont été tuées jeudi dans l'explosion d'une voiture piégée devant un hôtel populaire de Mogadiscio. L'attaque a été revendiquée par les islamistes Shabab, affiliés à Al-Qaïda. Plus de détails avec Yacouba Ouedraogo.
Abdi Aziz Ali Ibrahim, porte-parole du ministère de l'Intérieur, dit que le bilan pourrait être plus lourd. Abdi Kadir Abdirahman, directeur des services d'ambulance, a parlé d'au moins 22 blessés. Des témoins ont décrit une voiture piégée qui a explosé à l'heure de pointe sur une grande artère près d'un hôtel fréquenté par des responsables gouvernementaux. La plupart des victimes sont des conducteurs de tuk-tuk, ces tricycles utilisés pour les transports publics. Le porte-parole des opérations militaires du groupe Al-Shabaab a revendiqué l'attaque, ajoutant que parmi les victimes, il y a des soldats et des officiers. Les Shabaab sont aussi tenus responsables de l'attentat au camion piégé du 14 octobre à Mogadiscio qui a fait au moins 512 morts. Cet attentat, le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie, n'a jamais été revendiqué. Les islamistes Shabaab tentent depuis 2007 de renverser le fragile gouvernement somalien qui est soutenu à bout de bras par la communauté internationale et quelques 20 000 soldats de l'AMISOM, la force de l'Union africaine.
La Chine menace ce vendredi de prendre des mesures de représailles contre les États-Unis après la signature par le président américain Donald Trump hier d'un mémorandum ciblant les importations chinoises pour un montant pouvant atteindre 60 milliards de dollars. Le chef de l'exécutif américain accuse Pékin de concurrence déloyale et de vol de propriété intellectuelle. Abdourahmane Dia.
Cette annonce pourrait conduire à une guerre commerciale. Pékin a déjà annoncé qu'elle ne va pas rester les bras croisés. Pour le directeur adjoint du Conseil économique national de la Maison-Blanche, il s'agit de compenser les gains obtenus par les Chinois par le biais de pratiques commerciales déloyales. Everett Eisenstadt a dit que le président va charger le représentant au commerce de publier une liste de produits et des taxes envisagées qu'il compte prendre dans les 15 jours suivant la signature du mémorandum. En 2017, les États-Unis ont enregistré un déficit pour les seuls échanges de marchandises de 375 milliards de dollars avec la Chine. Le président a répété hier avoir demandé à Pékin de réduire ce déficit de 100 milliards de dollars immédiatement. Par ailleurs, les États-Unis avaient ouvert en août 2017 une enquête sur des violations supposées des droits de propriété intellectuelle. Washington s'inquiète en particulier du système de co-entreprise imposé par Pékin aux entreprises américaines. Pour avoir accès au marché chinois, ces firmes sont obligées de partager avec des partenaires locaux une partie de leur savoir-faire technologique.
États-Unis toujours, la Chambre des représentants et le Sénat ont adopté hier soir la loi finançant l'État fédéral, malgré l'absence de dizaines de milliards de dollars réclamés par le président Trump pour construire un mur à la frontière mexicaine. Le Congrès devait absolument approuver cette loi pour éviter une fermeture des administrations fédérales ou « shutdown ». La Maison-Blanche a confirmé que Donald Trump allait promulguer la loi pour qu'elle entre en vigueur. Et par ailleurs, le président Trump a annoncé la nomination de John Bolton au poste très influent de conseiller à la sécurité nationale, et ce 10 jours après l'éviction du chef de la diplomatie Rex Tillerson. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.